Madame, monsieur, je vous souhaite de vivre et de profiter de cette belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime cette nouvelle émission que vous écoutez et que j'ai intitulée « Après le bac ». Après le bac, oui, car c'est une émission destinée aux jeunes bacheliers et à leurs familles, ainsi qu'aux étudiants. Nous pourrons évoquer les formations post-bac, les formations supérieures disponibles après l'obtention du baccalauréat sur le territoire de l'agglomération Nîmes Métropole, mais aussi dans le Gard, et nous pourrons aussi aborder ce qui se passe dans ce domaine autour de notre département. Pour notre première émission, j'ai invité Jean-Daniel Valade, que tout le monde connaît bien à Nîmes. Daniel est un ami pour moi de longue date. En effet, je le connais depuis que j'ai 10 ans et nous avons vécu ensemble de merveilleuses aventures. Il m'a même donné des cours d'anglais, mais je l'avoue, je n'ai jamais été à la hauteur de son enseignement. Jean-Daniel Valade est vice-président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, délégué à l'enseignement supérieur, et c'est à ce titre que nous le recevons, et je le remercie d'avoir accepté d'être le parrain de ma nouvelle émission Après le bac. Bonjour à vous, monsieur le vice-président, et bonjour à toi, Daniel, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour mon cher Jacques, et je ajouterai que si tu n'étais pas bon en anglais, tu as été meilleur en équitation.
Oui, c'est vrai que j'étais bien meilleur en équitation qu'en anglais. Alors, Daniel, pourrais-tu, dans un premier temps, dans un premier lieu, nous présenter, pour qu'on sache un peu de quoi on parle, nous présenter succinctement la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. En fait, quel est son rôle ?
Mais la loi, il y a quelques années déjà, il y a 22 ans, prévoyait la création d'un ensemble de communes, du regroupement de l'ensemble de communes liées par les frontières, si j'ose dire. Il faut que ce soit cohérent, dont les communes doivent être voisines les unes des autres. Et l'aglo a été créé en 2002 par Jean-Paul Fournier. Il souhaitait avoir cette nouvelle échelle, ce qui est une très bonne idée, puisque ça, c'était dans l'air du temps, mais maintenant c'est non seulement une obligation, mais une réalité efficace. Donc en 2002, Jean-Paul Fournier crée Nîmes Métropole nous en sommes maintenant, après un ajout de quelques communes du secteur de Lens-Gardonninque, à 39 communes.
39 communes regroupées dans un seul territoire et avec une gouvernance, bien évidemment.
Tout à fait. Donc 217 millions d'euros pour le budget et 259 000 habitants pour le nombre de vivants dans cette communauté.
Ouais, donc ce sont des chiffres énormes, quoi.
Oui, c'est important. C'est une nouvelle échelle. La communauté d'agglomération, non seulement elle existe, mais elle a surtout des compétences. Et c'est surtout cela qu'il faut voir.
Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que tu es ici. Hein. Alors, peux-tu nous préciser, parce qu'on n'est pas au fait, quelle est ta fonction au sein de cette institution en tant que délégué à l'enseignement supérieur ?
Eh bien, la délégation à l'enseignement supérieur n'est pas une obligation des compétences liées à Métropole. Mais l'une de ses grandes compétences, c'est l'économie. Et nous avons considéré que le secteur économique dépendait beaucoup du secteur universitaire et inversement. C'est donc pour cela que Franck Proust et l'ensemble des 110 délégués de Nîmes Métropole m'ont élu pour être à cette responsabilité.
D'accord. Alors, quand j'ai employé le terme d'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on entend par enseignement supérieur ?
Alors, cela peut aller depuis les classes préparatoires, qui sont déjà un premier pas sur le palier.
Donc au niveau des lycées ?
Oui, au niveau des lycées, qu'ils soient publics ou privés, ou d'autres institutions. Et ensuite, bien évidemment, l'enseignement supérieur, ça concerne jusqu'à Master 2 et au-delà, puisque nous subventionnons des thèses de doctorat.
D'accord. Donc, au niveau universitaire, donc sur la métropole, il y a Nîmes. Est-ce qu'il y a des relations avec l'Université de Montpellier ou c'est séparé ?
Alors, il y a deux universités qui travaillent sur le territoire de Nîmes Métropole. Il y a Nîmes Université, parce que Nîmes, c'est fini.
Ah, c'est fini.
Depuis quelques semaines, il s'agit de Nîmes Université. C'est un établissement public expérimental. Alors, pour répondre clairement à ta question, on en reparlera. Mais donc, nous sommes aussi en lien, bien sûr, avec l'Université de Montpellier, dont le président est M. Auger. Nîmes Université, c'est M. Benoît Rouague. Et en ce qui concerne l'Université de Montpellier, il s'agit surtout de la faculté de médecine et de maïeutique, comme on dit.
Oui, voilà, parce qu'il y a la faculté de médecine avec l'ancienne Nîmes, si j'ose dire.
Voilà.
D'accord. Et alors, ton rôle au sein de Nîmes Métropole par rapport à l'enseignement supérieur. Parce qu'il n'y a pas que les universités, il y a les IUT,
non,
il y a
un nombre d'établissements.
Est-ce que tu peux nous dire de mémoire comme ça, on va en oublier. Mais
oui, alors ma mémoire est aidée par mes notes, donc nous avons l'IUT, l'Institut universitaire de technologie, qui est un établissement remarquable.
Oui.
Je l'ai visité il y a quelques années avec le ministre de l'enseignement d'Éthiopie, qui parlait parfaitement français. Il avait fait ses études à Montpellier. Nous avons plus parlé de Rimbaud que de technologie. Et donc, l'IUT, bien sûr, tous les établissements privés, notamment ceux de la Chambre de commerce et d'industrie
bien
de Nîmes.
Sûr, oui.
C'est une très, très belle structure.
Oui.
Ensuite, la faculté de médecine, bien sûr. L'École supérieure des beaux-arts de Nîmes, dont j'ai l'honneur d'être président du conseil d'administration depuis toujours, enfin depuis au moins 20 ans, ce qui est déjà une longue période, et qui donne un diplôme à Master 2.
Il
s'agissait, l'École des Beaux-Arts, c'était un établissement municipal qui donnait un diplôme attribué par l'Éducation nationale et la culture. Et puis, il y a eu une création d'établissements publics de coopération culturelle qui font qu'au terme des textes aujourd'hui, eh bien, les diplômes obtenus, si l'école prend cette direction administrative, le diplôme obtenu est un Master 2 et permet d'aller dans l'Europe entière. Donc, on a donné aux étudiants la possibilité de sortir de la ville de Nîmes et d'aller dans le vaste monde européen, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, nous avons l'Institut d'Alzon, qui a des structures universitaires, l'Institut de formation au métier de l'éducation, qui est une maison privée et qui prépare à des diplômes et à des fonctions d'animation dans les établissements, l'Institut national supérieur du professorat, les anciennes IUFM, ancienne école normale que je connais bien, le lycée du Houda, Saint-Vincent-de-Paul, la Digital Business School, le lycée Daudet qui a des classes préparatoires bien sûr, Saint-Stanislas et puis quelques autres établissements encore.
Oui.
Cela représente 15 000 étudiants sur Nîmes.
Ça fait un pôle étudiant énorme.
Énorme, oui, par rapport à Montpellier qui en a 50 000, mais enfin bon, donc 15 000 à Nîmes,
oui,
dont 6 000 à l'Université de Nîmes. À Nîmes,
oui,
Université.
Nîmes Université. Alors, c'est intéressant parce que je viens d'apprendre qu'il y a Nîmes Université. Parle-nous un peu de Nîmes Université, de cette nouvelle structure.
Alors, Nîmes Université, cela répond à un texte qui n'est pas si jeune que ça, d'ailleurs, qui a une vingtaine d'années. Et ce texte a été peu utilisé, mais Benoît Rouag, qui est le président donc, de Nîmes Université, qui est un homme extrêmement actif, a souhaité que l'Université de Nîmes se transforme en Nîmes Université, avec un noyau dur qui est l'ancienne Université de Nîmes, dont Vauban et Hoche, l'École supérieure des beaux-arts, l'IFME. Ça, c'est le noyau dur.
C'est une nouvelle université.
C'est une nouvelle forme d'université qui a des composantes structurelles et d'établissements, en fait. Parce que l'Université de Nîmes, elle a un président, des profs, des étudiants et en avant.
Oui.
Là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a toujours les profs, les étudiants et en avant, mais il y a d'autres établissements qui sont associés au fonctionnement de l'université, à ses ambitions, à son fonctionnement, comme je l'ai dit, et à toute la créativité que cela suppose. C'est beaucoup plus vaste, disons que l'horizon s'élargit. Des colonnes de la Méditerranée, on passe aux vastes océans du monde.
Parce que, bon, il y avait la faculté de médecine qui dépendait de Montpellier, mais qui était Montpellier-Nîmes quand même. Hein,
c'est la faculté bien sûr.
De médecine Montpellier-Nîmes. Il y avait aussi l'école de comment pour les sages hommes ou les sages femmes. Mais il n'y avait pas d'université. Donc, bon, il y avait une Nîmes qui était une université. Indépendant, mais avec des laboratoires de thésards, etc., dans d'autres universités, tandis que là, la nouveauté, et cela depuis combien de temps ?
Bien, nous sommes là depuis, l'EPE, c'est depuis quelques semaines.
C'est quelques semaines, donc mon émission vient à...
Elle est en avant-propos, comme toujours, tu es à la pointe du progrès.
Voilà, et je le percevais. Et donc, au sein de Nîmes, existe une nouvelle structure universitaire qui, en fait, n'existe pas ailleurs.
Alors, elle existe dans 2 ou 3 spots, comme dirait l'autre français. Mais nous sommes très concernés par cela et surtout par l'énergie de Benoît Rouag, le président, qui est extrêmement inventif.
Oui, parce que c'est
quand même ambitieux pour Nîmes.
C'est quand même très, très original et ça casse un peu les schémas de l'université. Bon, moi que j'ai connu, puisque je sors de l'université Montpellier-Nîmes Médecine, mais je fréquente les autres universités. J'étais à une conférence, on m'a demandé d'intervenir à une conférence à l'université de droit, donc à la faculté de droit. Donc il y a des universités différentes à Nîmes, mais une structure universitaire qui est relativement complexe pour les gens qui n'y sont pas, parce qu'il y a U1, U2, etc. C'est quand même très complexe, même pour les étudiants et même pour certains enseignements, parce qu'on ne sait plus des fois à qui on appartient. Mais donc là, c'est nouveau et dans un bassin quand même très important. Alors cette nouvelle structure qui est neuve, qui est originale, donc avec quelqu'un qui nous dit très performant et très dynamique, Est-ce qu'elle va avoir des relations avec les autres pôles universitaires de la région ou de France, de Paris, à l'étranger, des relations comme on se fait? Il y a des liens avec d'autres universités étrangères.
Alors déjà, il faudra faire fonctionner la,
oui, il faut d'abord que ça marche,
la machine, mais elle fonctionne.
Elle fonctionne,
mais tous les gens se connaissent. S'ils ont accepté, les établissements composantes de l'EPE gardent leur identité, leur budget, leur personnel, etc. Ils sont liés par l'action.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est le principal.
C'est une fédération.
Voilà, c'est un peu comme les États-Unis, il y a différents États, mais qui fonctionnent sous une énergie commune.
Ça leur donne une force, excuse-moi, mais ça donne une force, j'ai toujours été pour les fédérations, parce que ça donne une force qui est indubitable.
Oui, mais chacun irrigue tout le monde, donc c'est assez sympa.
Oui, parce qu'il y a une relation, et puis entre guillemets, une fraternité qui fait qu'on travaille tous dans la même direction. Au lieu de se tirailler, il y a une synergie, il y a une potentialisation qui est bénéfique, parce qu'il ne faut pas oublier que le principal, c'est les étudiants qui sortent.
C'est essentiel.
Ça montre un encadrement quand même très important. Alors déjà, UNIM, moi j'ai une expérience, parce que j'étais enseigné à UNIM, c'était une université qui était très bien, d'abord par le lieu, parce que c'est un lieu historique, c'est un lieu quand même...
Que le Nîmes Métropole finance, d'ailleurs. Voilà. Très largement, on y reviendra.
Donc c'est un lieu historique d'une prison. Hein. Et d'ailleurs, notre ami Marcel Ranquet a fait une étude dessus. A fait
et je te raconterai comment la prison est devenue université.
Voilà. Et donc c'est un lieu important, qui s'est un lieu de souffrance quand même, un lieu d'emprisonnement, de non-liberté. Ça s'est transformé en lieu... convivial. Bon, j'étais très heureux d'aller retrouver mes étudiants. C'est très bien. C'est ouvert à beaucoup de conférences. C'est très bien. Donc, c'est une université que j'aime beaucoup parce que j'ai eu de très bonnes relations avec les étudiants et ça m'a beaucoup plu, et avec les enseignants. Donc, rentre dans une fédération avec une synergie portée par Nîmes Métropole qui va rayonner. Il va y avoir des liens avec d'autres bassins universitaires.
Voilà, pour revenir à ta question de départ, effectivement, des liens avec les bassins universitaires, mais Montpellier, bien sûr, car nous sommes exemplaires. Alors, on est toujours exemplaires par rapport à Montpellier, bien évidemment. Nîmes est à la pointe de tout.
On est du bon côté du Vidour.
Et donc, il y aura une action particulière par rapport à Montpellier, bien sûr, des liens particuliers, mais également des liens extérieurs. Rappelons, c'est le moment où jamais d'en parler, que l'Université de Nîmes est la mère de l'Université de Mayotte, par exemple.
Hein,
c'est Nîmes qui a créé Mayotte avec le précédent président, qui a fait un travail considérable et qui a créé cette université. Donc il faudrait peut-être un peu plus parler, je ne sais pas où en sont les locaux ni leur action, mais ils doivent beaucoup souffrir. Et d'ailleurs, lors du prochain conseil d'administration, dans quelques jours, au mois de janvier, le président Rouac doit faire une communication sur l'Université de Mayotte.
Ah, très bien. Donc Nîmes a créé un pôle universitaire, enfin une structure universitaire à Mayotte. Et tu n'as pas de nouvelles
Il y a quelques années. Non, je n'en ai pas. Lui en a sans doute. Il est en prise directe et il nous dira l'état des lieux au début du mois de janvier.
Bon, alors explique-nous plus ta fonction. Bon, parce que bon, on a compris qu'il y a Nîmes Métropole avec quand même plusieurs 200 et quelques millions de budget. Donc c'est quand même considérable. Un nombre important de communes. Et qui est le cœur de cette structure universitaire nouvelle, novatrice en France, même s'il y en a deux ou trois. Alors, ton rôle de lien entre... parce que je pense que Nîmes Métropole finance une grande partie de... Enfin, pas toutes ces structures, mais on finance une partie. Quel est ton rôle exactement?
Eh bien, le président Proust et les membres du conseil, qui sont plus de 100 d'ailleurs, du conseil de l'Aglo, dont je fais partie, eh bien, m'ont fait confiance en me demandant d'être le représentant de la métropole à l'intérieur des structures universitaires. Donc, je fais partie de tous les conseils d'administration.
Voilà, c'est toi qui représente la métropole.
Des structures, voilà. Donc, et puis, je suis ça de très près, puisque moi-même, comme on ne le sait peut-être pas, j'ai été enseignant, j'ai toujours tenu en étant élu à avoir un métier. Je n'ai jamais lâché le mien, qui était d'être enseignant de l'éducation nationale, dont je connaissais quand même les lieux, les gens,
les rouages,
et le fonctionnement des choses. Etc. Donc, nous sommes présents... au conseil d'administration de Nîmes Université. D'ailleurs, moi, j'ai moins poussé. Comme président du conseil d'administration de l'École supérieure des Beaux-Arts, j'ai poussé à la roue pour que, effectivement, cette école entre dans l'EPE. Jean-Paul Fournier, à qui j'avais présenté le projet, en a été parfaitement d'accord. Donc, je suis un peu le go-between, comme on dit en anglais, cher Jacques. Le go-between entre les structures et la métropole. Donc, je participe au conseil, à de nombreux conseils. D'ailleurs, certains conseils, tous sont intéressants. Mais par exemple, le collège doctoral, c'est pas mal.
Oui, c'est important.
Je trouve cela extrêmement intéressant, on est au cœur des choses. Et puis surtout, dans les conseils d'administration, eh bien, on parle peu de pédagogie, mais on parle gros sous. Et là, c'est là que l'aglo intervient. Hein. Par exemple, tu évoquais tout à l'heure Vauban, l'ancien fort transformé en, comme disait Victor Hugo, fermez une prison, vous aurez une école. Eh bien, sur Roche, par exemple, Nîmes Métropole a versé près de 6 millions d'euros.
Oui.
Nous avons contribué, dans le cadre du plan État-Région, au financement de Hoche. Et il restait, alors ce qui est assez amusant, tous les Nîmois connaissent le lieu, donc vous avez une sorte de deux grandes ailes, au milieu il y a une chapelle, c'était un hôpital avec chapelle,
ouais.
Et puis il y a eu trois Hoches. Il y a Hoche 1 qui est à droite quand on regarde l'établissement, Hoche 3 qui est tout neuf et qui est à l'arrière, mm-hmm. et Hoche 2 dont les travaux sont en cours, l'État ayant quand même été un peu lent à la détente financière. Et là au milieu il y a la chapelle. Et la dernière fois où nous avions visité la chapelle, nous marchions sur des planches situées sur 30 cm de guano. Alors certes, le guano des pigeons nîmois est extrêmement positif, mais on ne peut pas laisser ce truc-là au milieu, dégueulasse et plein de merdouilles de pigeons, quand les étudiants, les professeurs et le public va passer. Donc nous avons rallongé d'un million d'euros afin que nous avons donné 250 000 euros pour que cela soit restauré. Donc nous participons à la restauration des choses. Alors ça, ce sont les locaux, et puis après, il y a les études.
Voilà, alors on va y revenir. Mais alors je te remercie pour la chapelle, parce qu'il faut savoir que les cours de médecine se faisaient pour les 3e, 4e, 4e, 5e, 6e année, quand j'étais étudiant, à l'hôpital, parce qu'on était en stage, donc on faisait les cours, et puis on allait en stage, etc., se faisaient dans la chapelle. Donc la chapelle, pour moi, est gorgée d'enseignements et de moments importants où j'ai préparé des conférences d'internat, et donc c'est très bien que cette chapelle revive.
Au moment de la dénommer, d'ailleurs, tu me donnes une idée.
Je vous propose une trêve musicale avec une musique à l'intention de Daniel Jean Valade, une musique de recueillement, une ode en do mineur K477, présentant une formule mélodique du chant grégorien pour orchestre. C'est une œuvre composée par Wolfgang Amadeus Mozart en novembre 1785 à Vienne, où il meurt, je vous le rappelle, le 5 décembre 1791, soit 6 ans plus tard. Vous écoutez Après le bac, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Jean-Daniel Valade, vice-président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, délégué à l'enseignement supérieur, qui nous parle de cet enseignement supérieur dans l'agglomération Nîmes Métropole et ses environs. Daniel, peux-tu nous évoquer les nouveautés? Bon, tu nous en as beaucoup parlé, hein, et notamment de ce nouveau bassin universitaire de Nîmes Métropole. Mais les nouveautés concernant l'enseignement supérieur et surtout leur financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, d'une manière générale dans la région de Le Gard, enfin Nîmes Métropole, Le Gard, au sein de Nîmes Métropole, et on peut élargir avec, pour nos éditeurs, en dehors de ces périmètres, pour en prendre connaissance, et je prendrai connaissance avec eux.
Eh bien, nous allons nous limiter quand même, si j'ose dire, vu les budgets, à Nîmes Métropole. Donc, Nîmes Métropole finance les thèses, notamment. Elle finance les thèses sur l'Université de Nîmes, sur l'IUT, sur la Fac de médecine, sur le collège doctoral, et notamment, enfin, quelques exemples, nous finançons une thèse. Alors, les thèses sont financées sur 3 ans. Et elles coûtent par an 16 500 euros chacune. Et donc, nous avons, par exemple, été très attentifs parce qu'il faut que ces thèses correspondent à l'activité de Nîmes Métropole, notamment à l'aspect économique, aux conséquences économiques que peuvent avoir ces recherches et surtout leur aboutissement.
Alors, je vais vous rappeler simplement, pour les gens, une thèse. Alors, une thèse, l'enseignement supérieur, on a le bac, on rentre à l'université, jusqu'au master 2. Et donc avant, c'était la maîtrise, c'est-à-dire 4 ans. Maintenant, il y a un an de plus qui fait qu'on est en master 2. Puis à ce moment-là, on peut présenter une thèse sur un sujet, donc des doctorants. Donc il y a des professeurs qui sont habilités à diriger les travaux, donc il y a des professeurs qui sont habilités à les surveiller. Et donc le doctorant propose, ou son directeur de thèse lui propose, suivant ses compétences et son sérieux, un sujet de thèse. Donc bien souvent, ça se passe dans des écoles doctorales des universités, et donc il y a des doctorants dans les écoles doctorales. L'école doctorale peut être en histoire, en physique, etc. Donc c'est une différence avec la faculté, par exemple, de médecine, où le diplôme est une thèse, mais qui n'a rien à voir avec les thèses de ce qu'on appelle le troisième cycle. C'est-à-dire que les études de médecine ont fait 6 ans d'études, puis après l'internat, et on doit passer une thèse pour devenir docteur en médecine, et on ne peut être médecin qu'en ayant obtenu ce doctorat auprès de la faculté de médecine qui dépend d'une université et qui est reconnue au niveau national. Donc c'est en étant docteur en médecine qu'on peut professer. Mais on peut être historien en s'arrêtant en master 2, puis on peut préparer une thèse de troisième cycle en histoire. Moi-même, j'ai préparé à Aix-Marseille une thèse de troisième cycle en histoire. Voilà, donc je me suis financé tout seul. Donc on comprend très bien que Nîmes Métropole finance des thèses qui sont en rapport avec ses besoins ou sa direction politique. Donc c'était pour éclaircir.
Et voilà donc ces QFED. Nous sommes en train de subventionner une thèse sur les produits retardants en matière d'incendie et de transfert sur l'environnement. C'est tous les problèmes que cela représentait dans le Sud. Souvenons-nous de Générac, etc. Avec l'aide de la sécurité civile. Donc 16 500 euros en 3 ans. Nous subventionnons une thèse sur la recharge des eaux pluviales, des nappes, de la vistrinque. C'est vraiment pile sur notre sujet. Nous subventionnons également une thèse à laquelle nous sommes sensibles sur la maladie de Charcot. Avec notamment le zebrafish, qui est un petit poisson lequel permet de travailler sur le sujet.
Ce petit poisson, on le trouve où ?
Eh bien, on le trouve à CHU de Nîmes.
Ah bon ?
Et dans les journées, ce qui est intéressant, dans les journées de...
c'est une thèse de médecine.
Les journées de sciences, par exemple, qui se tiennent à l'Université des Carmes, car tu parlais tout à l'heure des locaux, mais nos amis étudiants de Nîmes sont installés au Carmes.
Au Carmes aussi.
Et ils vont quitter les locaux pour la rentrée 2025, puisqu'ils rejoindront Hoche 2. Là, sur ce site-là, s'installera le conservatoire de Nîmes. Ça, c'est une autre histoire. Nous sommes attentifs également à la valorisation du patrimoine, 15 000 euros sur 3 ans. Et nous avons également un subventionnement d'une thèse en histoire. Voilà donc les choses...
Le sujet de la thèse, c'est pas...
Eh bien, je ne le sais plus.
Ah bon, l'histoire sur la romanité.
Oui, je vais pas le confirmer, j'en sais rien. Je me souviens plus du sujet de la thèse, mais ce sont des choses extrêmement précises. Nous sommes également en lien avec la structure CROM, qui est sur la gestion des risques, sur le, tout cela sur l'EPE maintenant. Mm-hmm. Le projet, c'est le cas de dire Project, EKT à la fin, qui concerne le design dans sa partie sociale.
Très bien.
Et ensuite, alors là, c'est un peu plus local, mais c'est, enfin local, c'est universel depuis Noé.
Oui.
C'est l'Institut français de la vigne et du vin.
Ah oui.
Qui est très aidé aussi par Nîmes Métropole. Et puis, il y a quelque chose d'assez étonnant à laquelle nous sommes associés et que moi, j'aime beaucoup, c'est ma thèse en 180 secondes. C'est une sorte de challenge que les étudiants qui sont déjà présélectionnés dans les universités de l'Occitanie présentent. Donc, ils viennent présenter leur thèse en 180 secondes. J'ai été invité il y a quelques...
C'est-à-dire des étudiants, oui, de l'Occitanie.
Tout à fait.
De Toulouse, c'est une structure, voilà, de Perpignan.
Ils sont priés de présenter un travail dont tu connais l'ampleur intellectuelle et matérielle en 180 secondes. Ça fait 3 minutes. Hein.
Oui, ça fait court. Ça
et invité à présenter les opérations il y a un an ou deux à l'Est, et ça se passait à l'Est. J'ai été le premier à parler et j'ai dit, écoutez, les étudiants, ils ont 180 secondes pour présenter leur thèse. Moi, je ne vais pas faire plus et je ferai même moins parce que ce serait extrêmement désagréable pour eux d'entendre pérorer quelqu'un alors qu'eux, en 180 secondes, présentent les années de travail. Et j'ai coupé ainsi l'herbe sous les pieds de tous ceux qui étaient en face de moi, qui avaient un grand discours à dire et qui n'ont pas pu le dire.
Alors j'en profite, tu as parlé d'Alès. Alès, il y a quand même des écoles à Alès.
Il y a l'école des mines, bien sûr.
Donc est-ce que ça fait partie de...
Alors on est en lien avec l'école des mines, mais l'école des mines, là, elle est tellement puissante et tellement spécifique qu'elle a une vie, certes, internationale, mondiale. Nous le sommes en lien avec eux, mais pas tellement que ça. Par contre, je voudrais saluer la directrice de l'école des mines, qui est une dame remarquable, que j'ai rencontrée d'ailleurs plusieurs fois à Auch ou à Vauban, et qui est une dame d'une grande sagesse et d'une grande science.
Oui, oui.
Alors, il faut aussi savoir que l'établissement expérimental de Nîmes, maintenant Nîmes Université, est en lien avec Alès pour l'enseignement supérieur. Car il y a un pôle Nîmes Alès, dans lequel je siège avec Franck, moi et deux ou trois autres. Donc on est efficace à ce niveau-là. Et il faut aussi signaler que Nîmes est en lien avec l'université de Mende. Mm-hmm. C'est un peu comme dans les abbayes, à l'abbaye mère.
Oui, toujours, c'est le système.
Et puis ensuite, il y a les satellites.
Mais ça, c'est un système.
Les descendants, l'affiliation.
De mère et de fille.
Hein. Voilà, donc Nîmes est. Le répondant de Mende.
De Mende. Alors, à Mende, il y a une université à Mende.
Alors, il y a peu d'étudiants, mais il y a une activité universitaire, diplômante, etc.
Dans quel domaine?
Qui est dirigée par Nîmes.
Ah, d'accord, d'accord, ok. Bon, et d'autres projets, alors?
Voilà quelques exemples, oui. Alors,
il faut voir que tout ça doit être financé.
Ah, tout ça est financé, mais j'ai donné quelques chiffres, là. Une thèse, c'est 15 000 euros par an pendant 3 ans.
Est-ce que Nîmes Métropole a des relations avec des donateurs, ou l'industrie, ou des industriels, ou des fonds, des fondations?
Alors, l'EPE, dans l'université, a créé une fondation alors, universitaire.
Est-ce que je peux te demander qui héberge la fondation?
L'université.
C'est l'université qui héberge la fondation. Oui.
Alors, il y a un certain nombre de donateurs institutionnels, de banques ou de grosses entreprises, notamment le Baron, par exemple, qui sont dans le pot.
Donc, on peut faire appel à des donateurs, des industriels qui peuvent être intéressés et qui peuvent créer par donation des filières nouvelles ou des lieux intéressants ou des nouvelles structures au sein de le pôle universitaire.
Le président Rouen serait ravi que de multiples donateurs viennent là. Nous avons également une autre activité, enfin une activité démultipliée, donc concernant la DigiWeek, qui est une manière de sensibiliser les étudiants au digital et tout le numérique, qui est de prendre de plus en plus de place.
Rien pour les anciens, parce que les étudiants, ils sont sensibilisés. Les anciens ne sont pas très sensibilisés et ont des difficultés.
Il y a cette histoire d'intelligence artificielle qui est de plus en plus prégnante, qui a été... Important. Nous avons eu la DigiWeek il y a quelques semaines, et je l'ai ouverte, et je disais aux étudiants, écoutez, l'informatique est présente partout, c'est fondamental, très important, efficace, etc. Mais, n'oubliez jamais le côté humaniste des choses. Ayez toujours l'homme à l'idée lorsque vous travaillez sur l'informatique.
L'humain en premier lieu. Oui.
Ensuite, nous organisons des rendez-vous économiques régulièrement avec le maire de Caissargues, qui est le vice-président à l'acteur économique. Nous sommes au Salon de l'Emploi, à Lycée Avenir. Dans le Salon de l'Emploi, à Lycée Avenir, c'est un peu la propédeutique de ce qui se passe après en matière d'enseignement supérieur. Et nous allons subventionner l'année prochaine une quelque chose d'extrêmement important concernant les drones. Car
les drones,
Les drones, oui. Nîmes Métropole a pris la main sur l'aéroport. Mmh. De Nîmes, Provence, machin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est Nîmes-Garonne, mais c'est plus Nîmes-Garonne depuis longtemps. Franpousse a souhaité changer le nom, il a dû en parler ici. Donc, il y a là tout un bassin économique, un bassin scientifique, technique, et qui sera largement ouvert aux étudiants aussi.
Oui.
Car une des perspectives pour les étudiants de notre territoire, eh bien, c'est l'aéroport et toutes les recherches qui y sont attachées. Alors évidemment, les compétences de Nîmes Métropole concernent aussi l'enseignement supérieur. On a parlé tout à l'heure d'une thèse sur l'eau et la vistringue. L'eau, c'est la responsabilité désormais de Nîmes Métropole. Les déchets ménagers, c'est l'environnement. La mobilité, c'est aussi un moment important. Alors il ne faut pas non plus oublier l'animation du territoire, parce que les étudiants, ça étudie, mais il faut un peu que ça se distrait. Et je sais que toi-même, quand tu étais étudiant, tu t'es beaucoup distrait. Mais ça n'a pas empêché de réussir tes brillants diplômes. Et donc, nous avons Paloma. Nîmes Métropole, c'est Paloma. Avec un budget très... Une création très chère, mais légitime sur Nîmes Métropole, et un financement régulier de fonctionnement. Mais avec un succès grâce à Frédéric Jumel, le directeur, qui est tout à fait remarquable, et les étudiants viennent là en nombre. Nous sommes aussi, sans vouloir allonger la sauce, nous sommes aussi responsables du programme GEMAPI, c'est-à-dire la lutte contre les inondations. Et quand on sait ce que ça représente, c'est fondamental. Aussi, voilà pas mal de choses qui
donc
nous concernent.
Le Métropole est très très actif sur le plan... sur le plan enseignement supérieur, universitaire, en créant ce nouveau bassin intellectuel et de création. Et donc, ça va certainement attirer des investisseurs, des industriels, qui vont demander peut-être des nouvelles formes. Et donc, on comprend très bien ce lien. C'est le financement, des financements potentiels, et aussi des nouveautés qui vont se créer. Et donc, ce bassin va automatiquement s'amplifier. Ben écoute, Daniel...
Il faut que l'étudiant, ni moi, reste sur Nîmes au moment de sa professionnalisation.
Oui, c'est ça.
Donc, il faut donner des buts et des moyens, ce qu'on fait à Nîmes Métropole.
Oui, puis Nîmes est une belle ville pour les étudiants, parce que Montpellier était une ville, la ville universitaire et des étudiants. Mais elle s'agrandit, elle prend un tournant, d'après ce que j'entends, qui ne convient pas trop aux étudiants, mais bon, ça, je ne connais pas. Et donc, c'est vrai que Nîmes est une ville agréable pour... Maintenant, il reste à aller loger aussi, à des projets de logement, d'animation, comme tu disais, de restaurants, de restauration. La masse d'étudiants, c'est sa vie, hein, ça se distrait, mais ça mange, ça a des bibliothèques, etc. Enfin,
l'aspect santé, puisque tu es médecin, là, tu seras sensible, l'aspect santé est extrêmement important. Et tous les établissements universitaires, et notamment l'EPE, sont extrêmement attentifs à pouvoir donner la possibilité aux étudiants de rencontrer les médecins de toute spécialité.
Oui, alors ça, c'est très important. C'est important que tu le... C'est pas forcément le but de l'émission, mais c'est quand même une parenthèse qu'il faut mettre. Moi, de mon temps, il y avait un service médical à la faculté, donc à l'université. Et c'est vrai qu'actuellement, vu la crise que traverse le monde de la santé actuelle, c'est une véritable crise en tant que professionnel de santé. Moi, je suis un peu désolé de voir ce qui se passe. Avec le service militaire, moi, quand je l'ai fait, c'était un moyen d'avoir une image de la santé des jeunes à 21 ans. Donc, on n'a plus ça. Donc, les gens sont un peu libres dans la nature au niveau de leur santé. C'est vrai que l'université, il ne faut pas qu'il y ait une obligation, il ne faut pas qu'il y ait... qu'on passe sur la fourche codine d'une santé universitaire, mais donner la possibilité aux étudiants de pouvoir rencontrer des professionnels de santé, pas forcément des médecins, ça peut être des psychologues, des infirmières, etc. Enfin, des professionnels de santé qui peuvent être à leur écoute, qui peuvent leur répondre à certaines questions, qui peuvent répondre à des problèmes de santé, d'aménager pour les étudiants qui ont malheureusement un handicap ou des difficultés, des possibilités de suivre les cours. Tout ce système de santé autour des étudiants est fondamental parce que ça crée un bien-être de l'étudiant. Bien-être de l'étudiant, un étudiant qui est heureux est un étudiant qui apprend mieux et qui réussit mieux et qui redonne après à la société. Ça, c'est fondamental. Donc la santé, quand même, un pôle... Il y a la distraction, bien évidemment, mais il n'y a pas que, il y a aussi la santé. La nourriture est importante. De pouvoir avoir accès à la nourriture.
Le Crous a fait d'énormes travaux sur le site de Vauban, a fait des investissements énormes. Il y a une restauration extrêmement affinée. On se souviendra que pour Covid, et même avec extension aujourd'hui, le repas a 1 euro.
Oui. Moi, mon expérience à l'époque où ça a été une Nîmes, étaient très bien. Quoi. Les étudiants y étaient bien et enfin, ils me disaient qu'ils étaient très, très bien et heureux. Bon, mais on nous a fait une grosse promenade dans les nouveautés universitaires au niveau du bassin de la métropole Nîmois. Ben, je te remercie beaucoup d'être venu, de nous avoir appris tant de choses et de pouvoir éclairer un peu sur les nouvelles perspectives qu'ont les bacheliers, les futurs bacheliers, les étudiants, ou même les déjà étudiants qui veulent changer d'orientation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des étudiants qui ne se trouvent pas bien où ils sont et qui veulent changer. Donc ça leur permet de changer, d'avoir des équivalences, etc. Alors j'ai l'habitude de finir, parce que j'aime bien les livres comme toi, hein. Rappelons que tu es un érudit et bibliophile quotidien, donc j'aime les livres et j'aime bien finir mes émissions par une rubrique de fin d'émission sur des livres. Ici nous pourrons évoquer des livres, des livres sur le sujet, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais des informations à l'attention de jeunes auditeurs. Alors j'ai demandé à Jean-Noël Malin de nous citer quelques exemples.
Eh bien, d'abord, je vais d'abord te féliciter ainsi que l'ensemble des auditeurs sur le fait que tu viens d'être élu membre correspondant de l'Académie de Nîmes, créé par Louis XIV en 1682, et sans interruption aujourd'hui, et dont j'ai l'honneur d'être le doyen d'élection, je t'accueille avec joie.
Eh bien, parce que je l'apprends avec vous. Je remercie donc l'institution, je te remercie.
Donc, quelques bouquins, oui, moi je voudrais conseiller à tous les étudiants de France de Navarre, à leurs parents et à leurs profs, etc., de lire « Nîmes sans visa » de Christian Ligier,
oui,
qui fut adjoint à la culture et qui était un ami. « Nîmes sans visa », c'est une lecture de Nîmes, historique, intellectuel, artistique et supérieurement écrite. On rappellera que Ligier était l'ami de Jean Paulhan. Et puis peut-être quelque chose de manière générale, « Chose vue » de Victor Hugo, qui est une chose remarquable, qui est un texte de témoignage de Victor Hugo. Ce n'est pas en vers, pour une fois. On disait que Victor Hugo rêvait en alexandrin, mais ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, moi je conseillerais, concernant notre région, « La bête du Vacarès » de José Darbo. « La bête du Vacarès », c'est quelque chose d'extrêmement surréaliste. Je ne vous en dis pas plus, si je vous raconte, ça ira plus. Donc, lire « La bête du Vacarès ». Ensuite, bah, évidemment, il faut lire quelque chose sur la tauromachie, parce qu'on ne peut pas être à Nîmes sans lire sur la tauromachie, quoi qu'on en pense. Et je conseillerais les ouvrages de André Viard, qui est un juriste, torero, juriste et homme de culture. Il faut aussi trouver un bouquin sur le protestantisme, mais Radio Alliance Plus vous ouvrira grande sa bibliothèque. Et lire peut-être, ce qui me paraît fondamental, un bouquin sur la laïcité, parce que c'est le moment ou jamais. Et notamment ceux de Jean Bobéro. Jean Bobéro qui a écrit, qui a été un spécialiste de la laïcité. Et puis pour rêver et pour aller à la littérature pure, eh bien, moi, je vous conseille Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq, qui est une œuvre magnifique.
Bon, mais Daniel, un très très grand merci de ta présence et de tes éclaircissements, de tout ce que nous a apporté. Merci profondément d'avoir été avec nous pour cette première émission. Je remercie bien évidemment Louis à la technique et Chalène au visuel. Vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, pensez bien à votre avenir. Préparez-le et maîtrisez-le. Je vous remercie de votre attention, de l'écoute de l'émission Après le Bac sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À très vite. Je reste votre serviteur fidèle et attentif.